Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable.
15 avril, bonjour tout le monde, c'est lundi. Cybèle Olivier, bonjour, toujours chic, hein, toujours élégante. C'est le fun, merci. Bonjour Cybèle. Oh, ça suffit. Elle se met à danser, la danse du ventre. C'est que je dis élégante et là, tout à coup, ça dégénère vite. Stéphanie, bonjour.
Salut Benoît.
Tout va bien?
Oui, tout va bien.
Remplacé Sophie, à qui on va parler tantôt, qui a perdu sa mère la semaine dernière. Ça a bien été?
Ben, je pense que oui, dans la mesure du possible, pour un petit remplacement soudain.
On va encadrer ça, on va s'assurer. C'est correct. Non, ben ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine sous le soleil, sous la... Ça n'a pas été gros char. Mais bref, on va à 1h15. Il y a un article dans le Globe and Mail aujourd'hui. Oui, Globe and Mail. Sur le port de Montréal, je vais vous dire une chose. On n'a pas entendu tous les chiffres à propos des vols de voitures dans le port de Montréal. Et on a parlé à une représentante du port de Montréal. Ils sont pas responsables. Ils peuvent pas ouvrir les conteneurs. Et là, dans Globe and Mail, il dit, voici comment il faudrait faire. Puis voici qui devrait avoir l'autorisation d'ouvrir un conteneur sans mandat pour fouiller. Puis on peut pas tous les ouvrir. On veut pas tous les ouvrir. Mais au lieu que ça soit 2%, peut-être 50%, mettons, on en pognera un peu plus. En tout cas, on va faire ça vers 1h15. Et la FIC qui refuse l'entente qui était négociée. Alors, on recommence. Ça a l'air que ça va recommencer. On va essayer d'avoir quelques détails. Pourquoi les infirmières, inhalothérapeutes, etc., sont pas satisfaites de l'entente proposée. Moi, j'ai deux lettres là-dessus. SQ. La Sûreté du Québec a refusé le 21% sur 5 ans, puis ils sont retombés en bas de la pile. Ça, je dis rien, moi, je connais pas ça. Bon, on va parler d'un sujet. Tu sais, pour commencer la semaine, un bon sujet controversé, c'est toujours, toujours vendant. C'est vendeur, c'est de même que ça marche dans la radio et à la télé, puis en tout cas, je ne sais plus ce qu'on fait, les réseaux sociaux ou le cirque médiatique, appelez ça comme vous voulez. Ghislaine Gendron est avec nous, elle est co-coordonnatrice pour le Québec du WDI, Déclaration internationale des droits des femmes. Madame Gendron, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
Merci d'être avec nous. Alors, dans le Devoir du 10 avril dernier, on pouvait lire qu'en Angleterre, on avait lancé un appel à la prudence sur la transidentité chez les mineurs. Bon, là, ça recommence. Là, je sais, je vais avoir du trouble avec vous, avec tout le monde, là, parce que c'est vraiment polarisant, hein, comme sujet, Madame Gendron. C'est vrai,
oui, c'est épouvantable. Malheureusement, c'est politisé, effectivement, vous avez raison.
Et c'est un rapport, le rapport CAS, 388 pages. Expliquez-nous d'abord l'historique de ce rapport-là. Pourquoi on a créé un comité au Royaume-Uni sur le sujet?
Oui, bien, alors c'est parce que les traitements qui sont donnés aux enfants, aux mineurs qui sont dysphoriques de genre ont beaucoup changé au cours des années. Et puis, le ministère de la Santé britannique a demandé de faire la lumière là-dessus parce que vous avez raison, c'est polarisé et c'est politisé aussi. Mm-hmm. Alors, pour essayer de faire la lumière, si vous voulez, sur ces traitements-là, ben ils se sont dit on va faire une commission indépendante. Donc ils ont pris Madame Hilary Cass, qui était la présidente des pédiatres, l'association des pédiatres, et lui ont demandé de conduire cette commission-là qui a pris 3 ans et demi environ, pour ensuite donner des recommandations au ministère de la Santé et donner aussi, commissionner, si vous voulez, l'Université de York pour faire ce qu'on appelle une revue systématique de preuves. Ça veut dire que c'est le niveau le plus élevé en médecine pour évaluer la qualité, l'efficacité d'un traitement et aussi la sécurité d'un traitement. En médecine, c'est comme ça que ça se fait. Donc, c'est ce que l'Université de York a fait récemment et a publié ses recommandations qui vient de sortir. Ça faisait la première page de tous les journaux, la première page des journaux en Angleterre, et puis ici on en a très peu entendu parler.
Bon, on va en parler, vous et moi, Mme Gendron. Oui. Ce rapport-là fait suite à un procès de Keira Bell. Est-ce qu'on peut aussi résumer ce procès-là?
Oui, ben le procès Carabel, c'est une jeune fille qui avait poursuivi la clinique de genre où elle avait été traitée. C'était une jeune fille qui était lesbienne et puis qui avait des problèmes de santé mentale. Et puis qui a suivi cette clinique-là, qui a suivi le protocole qu'on appelle le protocole hollandais qui était donné par la clinique. Et donc, on lui a donné des bloqueurs de puberté, de la testostérone, et puis ensuite, elle a eu une double mastectomie. Elle a poursuivi en disant qu'elle pouvait pas consentir, étant donné d'abord son âge, qu'un enfant pouvait pas, mineur en fait, pouvait pas consentir à ces traitements-là, et puis en plus qu'elle avait des diagnostics de santé mentale. Donc, suite à ce procès,
Excusez-moi, parce que, tu sais, on lance plein de mots, là. Je pense qu'il faut les expliquer au fur et à mesure. Le protocole hollandais, Mme Gendron, je pense qu'il faut l'expliquer aussi, puis il faut expliquer aussi notre rapport au Québec face à ce rapport anglais.
D'accord. Alors, le protocole hollandais, c'est un protocole qui a été développé au début des années 2000 par un groupe de chercheurs hollandais qui cherchait à soulager, si vous voulez, les jeunes qui souffraient d'une détresse de la dysphorie de genre, et puis qui se sont dit, bien, on va leur donner, on va leur fournir des bloqueurs, leur administrer des inhibiteurs de puberté pour leur donner un moment, une pause pour réfléchir sur leur avenir, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont prendre des hormones de l'autre sexe, est-ce qu'ils vont avoir une chirurgie. Parce que quand la puberté arrive, c'est certain que pour les enfants, je pense que pour tous les enfants, pour les jeunes filles, c'est un gros changement. Ouais. Puis on n'est pas nécessairement prête à faire face à ça, d'autant plus pour des enfants qui avaient déjà des problèmes de dysphorie. Donc, ils ont administré ces bloqueurs de puberté-là, puis on a su plus tard que, bon, la plupart, 95% de ces enfants-là ont continué vers des hormones de l'autre sexe. Donc, là, il y avait comme entrepris un chemin plus irréversible, là, que seulement prendre... Il n'y avait pas simplement mis une pause sur la puberté, là.
Okay.
C'était vraiment un chemin vers une transition médicale. Qui a été suivi beaucoup par des transitions chirurgicales aussi, là, par une modification de l'appareil génital. Et puis,
donc, ils évaluaient seulement
le bien-être.
Ça devient irréversible.
Oui. Ben, c'est-à-dire que oui, c'est le rendu là, 100% sont sortis avec... 100% des enfants, il y en avait, dans le premier test, il y en avait 70 et le deuxième 40. 100% sont devenus stériles et infertiles.
Il
y a des gros problèmes...
Et sur les chiffres que vous avez donnés, Mme Gendron, là, est-ce que je me trompe, mais on parle de 70% sont des filles?
Oui, maintenant, pas à l'époque, mais maintenant, maintenant parce que c'est pas la même, on appelle ça une cohorte, là. Ça, il y a eu un gros changement dans ce qu'on appelle le profil de patient. C'est-à-dire qu'avant, la dysphorie de genre, c'était surtout des jeunes garçons. La très vaste majorité, 90%, devenaient des adultes homosexuels. Il y avait très, très, très peu de jeunes filles, tellement peu que c'était même pas étudié, là, tellement c'était peu. Alors, le profil de patients a complètement changé. C'est devenu 70% de filles, alors qu'ils étaient extrêmement minoritaires avant.
Est-ce qu'il y a une explication à ça?
Oui.
Est-ce qu'on sait pourquoi?
Non! Il n'y en a pas. Le rapport CAS le soulève. Ils disent, c'est une de leurs pas recommandations, mais elles disent qu'il faut absolument avoir des data, des données.
Ouais.
Puis on n'a pas d'explication, ce changement-là de profil de patient. Puis on n'a pas d'explication non plus de c'est exponentiel, là. C'est la dysphorie de genre. Ah oui, c'est énorme. Oui.
OK. Donc, ce rapport de 388 pages, là, c'est pas anecdotique. On suggère, moi j'ai lu le résumé. On suggère la prudence avant de se tourner vers les traitements hormonaux quand on soigne des jeunes, des mineurs transgenres. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on révèle dans ce rapport-là?
Mais quand on parle de prudence, en fait, on parle de commencer par évaluer la santé mentale, les diagnostics de santé mentale de ces enfants-là. On priorise la psychothérapie pour essayer de comprendre avec ces enfants-là, quel est le, ces jeunes-là, en fait, parce qu'ils se sont rendus des adolescents, là. Ouais. On a essayé de comprendre la source de leur détresse. Puis, ils disent, ben, peut-être qu'il va y en avoir une certaine quantité qui vont persévérer. Mais les chiffres qu'on avait avant, c'était 15% des enfants qui persévéraient dans la dysphorie de genre. Les petits garçons, là, dont je vous parlais au début, là. Ouais. Environ 80% désistaient. Ils appellent ça désister, là. C'est-à-dire que leur dysphorie de genre se résorbait par ce qui est ironique, ben c'est pas ironique, mais en fait ce qui est paradoxal, je dirais, c'est que se résolvait par la puberté. Mais maintenant, on bloque leur puberté. Alors, vous voyez un peu les problèmes dans lesquels.
Alors, la puberté amenait ces jeunes-là à vraiment réfléchir et prendre une décision sur leur avenir, sur leur identité.
C'est-à-dire que ça les réconciliait avec leur corps parce qu'il y avait un mélange entre orientation sexuelle et identité de genre. Pour des petits garçons de 3-4 ans, là, ils comprennent pas ce que c'est qu'une orientation sexuelle. Ils comprennent pas ce qui lui arrive s'il est attiré par les garçons. Ils ont même pas compris la sexualité, ce que c'était. Ben Donc, quand ils commençaient à vivre leur sexualité avec l'adolescence, ben, beaucoup comprenaient que c'était une question d'orientation sexuelle et leur dysphorie de genre se résorbait. Mais maintenant, on a affaire à une toute autre cohorte. Là, on a affaire à 70% de jeunes filles qui n'ont pas vécu dans leur enfance de la dysphorie de genre. Ça s'est déclenché, si vous voulez, à l'adolescence. Puis aussi de personnes qui s'identifient non-binaires. Donc ça non plus, on n'avait pas ça dans ces cohortes-là, dans le protocole hollandais dont je vous parle. Là. La question de non-binarité, de dire j'appartiens pas à un sexe ou à un autre, ça aussi, c'est relativement nouveau dans cette cohorte-là aussi. Okay. Donc tout ça n'est pas étudié. Là. C'est ce que préconise. Ce qu'elle a dit aussi, ce qui est important dans le rapport, c'est que les lignes directrices, les chercheurs ont trouvé seulement deux lignes directrices de pays qui étaient fondées sur des preuves, si vous voulez, et qui rencontraient les critères de rigueur. Puis ces deux lignes directrices-là, c'était la Suède et la Finlande. Alors, la fameuse World Professional Association for Transgender Health, là, le WPATH, qui se définit elle-même comme la référence mondiale pour les lignes directrices, n'a même pas été retenue par les chercheurs de York pour... Puis c'est celle-là qui est appliquée ici au Québec en passant, là. C'est la ligne directrice du WPATH qui a été considérée dans le rapport, là, manque de rigueur. Puis ce qu'ils veulent dire par manque de rigueur, oui...
Alors nous au Québec, on se fie à cette référence-là qui vient d'être déclarée non crédible.
Ben, ils ont dit manque de rigueur. Puis ce qu'ils expliquent par le terme manque de rigueur, ça veut dire qu'ils ne font pas, je l'ai noté, là, systématiquement des recherches de preuves, qu'ils ne font pas de lien entre les recommandations qu'ils font et les preuves, et puis qu'ils ne tiennent pas compte dans leurs recommandations des bénéfices, des effets secondaires, des risques qui doivent être évalués avant de faire les recommandations.
Même.
Donc, c'est très grave.
Mais quand même.
En médecine, c'est très grave.
OK. Oui. Alors, Mme Gendron, le Québec face à tout ça, là, on se situe comment? Mm-hmm. Et l'autre question, puis je vous la pose en même temps, là, c'est pourquoi vous vous intéressez à ce sujet?
Ben, OK. Je vais vous répondre à la première question. Je voulais dire le Québec et le Canada, on est un peu, j'ai presque envie de dire les cancres là-dessus parce qu'on n'a pas fait de recherche, de revue systématique de preuves comme les autres pays en ont fait, comme la Finlande, l'Angleterre, la Suède et de nombreux pays. Là, la Belgique commence à y penser et le Danemark aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que le Canada est très à la traîne parce que même les États-Unis, la Floride l'a fait, la revue systématique de preuves. Donc, on n'en a pas fait puis c'est ça qu'il faut faire ici.
Et pourquoi on n'en a pas fait
d'ailleurs?
Pourquoi on n'en a pas fait selon vous? Parce que quoi? C'est dogmatique? Parce qu'on a décidé à l'avance?
Ça, je pourrais pas vous dire parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est très politisé. Il y a des alors il y a une polarisation, ça a été mal couvert, si je vous dirais, par plusieurs médias, dans le sens où est-ce que on a montré seulement un côté, parce que c'est controversé, on l'a vu, il y a il y a des cliniciens qui sont pour, il y a des cliniciens qui sont contre. Mais on a toujours présenté le même côté, là, ici au Québec et au Canada aussi, beaucoup, beaucoup. Là. Donc, ça serait, on a vu la seule, on a vu TransExpress dernièrement, là, qui a fait un reportage avec des transitionneurs. Pour répondre à votre deuxième question, eh ben moi, je vous dirais pourquoi on s'intéresse à ça, parce que 70% des enfants, des mineurs sont des filles. Ça atteint beaucoup, beaucoup les filles, qui était quelque chose qui n'était pas, qui ne faisait pas partie du profil de patient. Et nous, ça nous inquiète parce que ces filles-là souffrent souvent d'autisme. Elles souffrent de troubles alimentaires. Là, nous, on pense à l'anorexie et tout ça. D'ailleurs, les recherches ont démontré que les recherches sur Google, quand on regarde à partir de le Google Trend, là, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais avec un mot, on fait une recherche, puis l'anorexie baisse à partir de 2000, puis le transgenrisme monte. Vous voyez, il y a comme les courbes se croisent.
Ah, oui.
Alors là, puis les filles, sont très atteintes par l'anorexie plus que les garçons.
Ok, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre là, en conclusion, Mme Gendron, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce rapport CAS qui quand même mené par une pédiatre? Là?
Mais c'était toute une équipe de recherche aussi, puis l'équipe de l'Université de York là, qui était spécialisée dans les revues systématiques de preuves, donc qui était menée par une pédiatre, effectivement. Ben il faut comprendre qu'il faut arrêter de politiser, c'est pas la gauche, c'est pas la droite, ça a rien de politique, c'est de la médecine, de un. De deux, il faut se baser sur des preuves et sur la science. C'est ce qu'elle recommande. Elle recommande de faire davantage de recherches. Elle dit que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté d'administrer des bloqueurs de puberté aux enfants en attendant que ces bloqueurs-là soient administrés seulement dans un protocole de recherche pour qu'on sache quels sont les effets à long terme, parce que ce qui est très suspecté, il y a eu des pertes de quotient intellectuel de 7 à 15 points qui ont été notés. Donc, on voit que c'est soupçonné d'avoir quelque chose sur d'avoir un effet sur les capacités cognitives du cerveau et sur la densité osseuse. Mais ça, c'est plutôt les garçons, là, pour des raisons que je pourrais vous expliquer. Mais en tout cas, il y a des effets qui sont pas encore connus. Et puis, quand on demande à un enfant de consentir à ça, ou à un mineur de consentir à ça, c'est incroyable de demander de consentir à devenir aussi infertile aussi. Ils comprennent pas ce que...
On est obligé de parler d'un rapport anglais, parce que vous me dites, il n'y a rien au Canada, il n'y a rien au Québec sur la transidentité chez les mineurs.
Non, il y a de la recherche, il y a des sondages, mais c'est du faible. Au niveau, je vous dirais, de la pyramide des preuves, la qualité de preuve, c'est la faible qualité de preuve, ces recherches-là. Il faut une recherche rigoureuse. Oui.
Est-ce que les informations sont souvent biaisées par le fait qu'on est militant d'un côté ou militant de l'autre?
Ben, dans le rapport CAS, il y a plusieurs recherches qui ont été écartées parce qu'elles ont été, ces recherches-là ont été qualifiées de biaisées.
Ah oui. OK. Et puis, je voyais, je sais pas si vous avez vu, Mme Gendron, en Oregon, là, il y a un gars, Gallagher, qui s'identifie comme fille. Il a participé à une course de 200 mètres, puis il a clenché ses compétitrices de l'ordre de 5 secondes.
5 secondes.
À l'arrivée.
De 5 secondes.
Ouais. Puis là, à la fin de la course, il y a personne qui le félicitait, qui l'a félicité. Je sais même plus comment le dire. T'sais. Mais, tu sais, qui félicitait le jeune, parce que, de toute évidence, ça correspond pas à la réalité.
Exactement, c'est ça. Oui, ben j'espère que le comité des sages va analyser cette question-là sur tous ces aspects, dont le sport, comme vous le dites, et aussi les prisons et puis les espaces réservés aux femmes.
Ouais. OK, avant qu'on se quitte, j'ai parlé à Alexandra Hull de PDF Québec il y a à peu près 3 semaines, un mois, qui me disait qu'elle recevait des menaces de mort, des menaces de viol. Mm-hmm. Et ça, c'est un comté de femmes trans, là, si tu veux avoir un comportement d'homme, tu sais, malsain, là, des menaces de mort, des menaces de viol, ça, c'est des hommes. Hein? Nous autres, on fonctionne de même souvent, là, les plus malades d'entre nous. Est-ce que vous...
Heureusement, pas tous.
Non, non, mais heureusement. mais je trouvais ça bizarre que, tu sais, des hommes, la naissance, qui s'identifient comme des femmes, se comportent comme des hommes quand ils sont remis en question. Est-ce que vous en avez?
Ben non, nous on n'en a pas, mais je pense que PDF, on leur reproche beaucoup parce qu'ils ont des subventions, donc on essaie de leur faire enlever leurs subventions, on essaie de leur faire peur. Tu sais, nous on est une poignée de bénévoles qui travaillent avec un réseau international, mais on est moins connus aussi, je pense. Non, on n'en a pas reçu, mais par rapport à ce que vous dites. Il y a une recherche suédoise qui a démontré que les hommes gardent leur profil criminel. Il y a un profil criminel qui est associé au sexe, le profil masculin et féminin. Et puis, ils gardent le profil criminel qui est associé à leur sexe quand ils transitionnent. Ça, c'est une revue, c'était une recherche sur 30 ans. Donc, ce que vous dites, ça confirme ça, en fait. C'est que ils conservent ce profil-là.
OK. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce rapport-là, Mme Gendron? Est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on va l'appliquer? Est-ce qu'on va s'en inspirer?
Ben, je pense que c'est au ministère de la Santé de faire ça. C'est au ministère de la Santé de demander qu'il y ait une revue systématique de preuves qui soit faite. Qu'il y ait une revue systématique de preuves, là, c'est le golden nugget. Là, c'est vraiment...
Okay.
C'est au-dessus de la pyramide. Là.
Okay.
C'est,
donc, ça relève du ministère de la Santé dorénavant. Je comprends ce que vous proposez. Oui. Gisèle Gendron, co-coordonnatrice pour le Québec du WDI. Merci. À la prochaine.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.